Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Ah non, j'ai plus le droit, mesdemoiselles. Donc je suis Bruno Grossi, directeur exécutif et administrateur délégué du groupe, et j'ai le plaisir de vous accueillir au nom du COMEX d'Econocom ce matin à l'occasion de la présentation de nos résultats annuels 2017. Donc bienvenue à vous tous. Pour lancer notre réunion et nous réchauffer un peu, excusez-nous, là on essaye de faire monter la température, je vais vous présenter donc dans un instant l'agenda que nous avons préparé pour vous. Il est assez classique, vous le verrez. Mais avant cela, laissez-moi vous dire que nous sommes ravis, honorés de votre présence fidèle, nombreuse et plurielle. Et nous, en l'occurrence, ce matin, c'est d'abord Robert Bouchard, qui est dans la salle, qui est notre COO, Chief Operating Officer, depuis mai. Nous, c'est aussi Galiane Touze, alors que vous connaissez probablement tous. C'est David Krief qui est à côté de Galiane, que vous connaissez probablement moins, en tous les cas, en tant que DG à finance du groupe Econocom, nouvellement arrivé. Et Martine Bayens, qui est aussi directrice exécutive du groupe, et qui s'occupe en particulier de la belle écurie de satellites dont je vous parlerai tout à l'heure. Et puis nous, c'est aussi les quelques directeurs, ils sont pas tous là parce que ça travaille hein, aussi, directeurs des métiers responsables PNL qui sont dans la salle, les principaux PNL du groupe. Et puis des patrons, ce terme, si Jean-Louis était là, il me dirait non, le terme est vraiment trop has-been. Des dirigeants actionnaires de nos satellites que j'ai croisés du regard tout à l'heure. Et donc on est tous heureux d'être parmi vous, d'être devant vous ce matin pour partager les faits marquants et les résultats d'une belle année 2017 qui a confirmé la réussite de notre plan stratégique Mutation 2013-2017, et on en est heureux et fiers. Et puis, qui permet aussi, cette belle année 2017, de lancer, dans de bonnes conditions, notre nouveau plan stratégique. C'est l'année 1 de notre nouveau plan stratégique, 2018-2022, que nous débutons avec enthousiasme et confiance. Alors, voilà donc notre ordre du jour. Donc, Robert Bouchard va nous présenter les faits marquants de l'année. Et puis les principaux chiffres, agrégats et résultats de l'exercice 2017. Il nous rappellera la feuille de route que nous nous sommes choisis, fixés pour les 5 prochaines années, et les leviers que nous avons identifiés pour parvenir à nos objectifs. Alors ça, c'est des objectifs qui vous avaient été, par parenthèse, présentés si vous étiez parmi nous lors de notre Investor Day en octobre dernier. Mais Robert nous en rappellera les principaux points. Moi, je reviendrai vous voir, juste après Robert, pour vous donner des nouvelles de notre galaxie, qui est, alors galaxie, vous commencez peut-être à être habitué à cette métaphore, qui est le modèle de croissance et d'organisation de nos métiers et de nos activités que nous avons choisi il y a déjà 4 ans de cela. Et je vous présenterai aussi des preuves tangibles du bon fonctionnement de cette galaxie. Des beaux contrats qui vont illustrer et peut-être mieux vous faire comprendre ce qu'est aujourd'hui devenu Econocom. Et puis Galiane viendra nous présenter, nous détailler, nous décortiquer les chiffres, parce que vous êtes aussi là pour ça ce matin. Et puis enfin, last but not least, il y aura la quatrième partie et confié à Robert, c'est toujours un exercice, tu verras, sympathique, ce qu'on appelle l'outlook, voilà, pour l'année en cours. Et puis, évidemment, on se soumettra au feu de vos questions. Donc, Robert, si tu veux bien, non pas me rejoindre, mais là, me remplacer, alors j'espère que momentanément, en tous les cas, pour cette première partie.
Bruno, je t'attends avec impatience dans une dizaine de minutes. Eh bien, bonjour à tous. Je suis absolument ravi d'être devant vous aujourd'hui, ce matin. Comme l'a dit Bruno, cet exercice 2017 a été un exercice favorable pour Econocom. Nous avons atteint un chiffre d'affaires d'à peu près 3 milliards d'euros et un ROC de 154 millions, comme ça a été annoncé hier soir. Ça a été rendu possible par un facteur différenciant du groupe Econocom. Ce facteur différenciant est que nous sommes présents dans trois lignes de métiers très forts, qui sont la distribution de biens et services IT et associés à du financement. Donc, distribution, service, financement. La combinaison des trois, on est un des, je crois, le seul en Europe, d'ailleurs, de la taille d'Econocom, à pouvoir délivrer ces trois services et de plus en plus à les combiner. L'année 2017, comme je vous le disais à l'instant, a été une année importante pour Econocom. Le premier point, c'est que cette année voit s'achever le précédent plan stratégique, le plan mutation. Et ce plan mutation avait comme objet, comme vocation, de transformer le groupe Econocom en une véritable société de services. Il y a 5 ans, nous réalisions à peu près 1,5 milliard de chiffre d'affaires et 150 millions d'euros de résultats opérationnels courants. Aujourd'hui, 75 millions, et aujourd'hui, 3 milliards et plus de 150 millions de résultats opérationnels courants. Donc c'est un doublement des chiffres d'Econocom. C'est la transformation vers une véritable société de services, et donc c'est la délivrance avec succès du plan mutation. C'est aussi le lancement de notre nouveau plan stratégique, le plan E comme excellence, qui vous a été présenté au mois de novembre dernier et sur lequel je vais revenir sur les principaux fondamentaux. Cette année a été aussi une année de succès car nous avons converti notre Ornan, ce qui a permis de renforcer d'une façon significative nos fonds propres. Et enfin, nous avons réalisé cette opération de croissance pour compléter notre business model innovant que nous appelons chez Econocom la galaxie. Et je vais vous expliquer plus en détail en quoi elle consiste. Nous avons, comme je vous le disais à l'instant, réalisé un chiffre d'affaires de 3 milliards. Ça correspond à 17,5% de croissance par rapport à 2016. Ça correspond aussi à 11,2% de croissance organique du groupe. Nous avons réalisé un chiffre de 154,4 millions d'euros de résultats opérationnels courants, qui correspond à une croissance de 10,1% par rapport, encore une fois, à 2016, et un résultat net récurrent de 94,5 millions, soit 13,8% de croissance, encore une fois, par rapport à 2016. Econocom délivre ses plans stratégiques. En 2007, nous avions lancé le plan Horizon 2012. Ce plan, à l'époque, consistait à servir dans l'entreprise le besoin de mobilité. 2007, vous le savez, c'est l'édition de l'iPhone, l'apparition de cet iPhone qui révolutionne, je dirais, la mobilité, puisque ça permet sur les téléphones portables d'avoir accès à Internet avec tout ce qui en découle en matière de mobilité. Après, il y a eu les tablettes, de plus en plus les ordinateurs portables. Il est apparu ici un besoin de l'IT chez nos clients, dans les organisations, pour pouvoir adresser cette innovation technologique qui, encore une fois, rendait service aux entreprises. Econocom s'est organisé pour pouvoir servir ce besoin, et les conséquences chiffrées sont un chiffre d'affaires de 700 millions en 2007 qui est passé à 1 milliard 575 millions en 2012 et de 25 millions de résultats opérationnels courants à 75 millions. Ensuite, le plan mutation, je vous le rappelle, doublement du chiffre d'affaires, 1,6 milliard qui passe à peu près 3 milliards en 2017 et 75 millions en 2012 qui passe à 154 millions en 2017. Econocom est une entreprise familiale. Mon père a souhaité en faire un groupe familial et j'en suis l'illustration devant vous aujourd'hui. J'en suis très honoré, mais ce qui veut dire que nous sommes une valeur de croissance, comme je vous l'ai démontré à l'instant, sur du long terme et que nous nous inscrivons dans le long terme. Les décisions que nous prenons sont des décisions de long terme. Et c'est important dans la façon dont vous nous regardez, vous nous évaluez. Ces chiffres entre 2007 et 2017 montrent encore une fois que nous avons de la constance et que nous savons nous transformer pour pouvoir adresser ce que demandent nos clients. Ce que demandent nos clients, c'est pouvoir bénéficier des fruits de la révolution industrielle du digital. Il y a 40 ans, ça a commencé avec l'informatique. J'allais dire ces mainframes, ces dinosaures qui coûtaient très cher, qui pesaient très lourd. D'ailleurs, à l'époque, la convention professionnelle, c'était celle de la métallurgie, tellement il y avait de métal dans les ordinateurs. Aujourd'hui, nous sommes en face de la révolution industrielle du digital. Econocom adresse les besoins des entreprises, des organisations, de la même façon qu'il y a 40 ans, simplement à compléter les briques d'expertise nécessaires pour pouvoir adresser les besoins issus de la révolution industrielle du digital. Et comment fait Econocom ? Eh bien, en complétant, en service notamment, en se transformant son portfolio. Nous avons mis de la maintenance, ensuite davantage de services et mutations. Et aujourd'hui, ce que nous faisons, c'est nous avons créé un business model unique qui s'appelle la Galaxie et qui combine les savoir-faire d'Econocom industriels pour pouvoir adresser des grands comptes avec des satellites que nous avons achetés cette année et une vingtaine au total qui sont expertes dans des domaines du digital pour pouvoir justement déployer chez nos clients à grande échelle avec des capacités industrielles ces savoir-faire. Et c'est ce modèle unique que nous comptons développer qui permet de nous différencier vis-à-vis de nos confrères avec ce que je vous disais en début d'exposé sur la combinaison des services, du financement et de la distribution. Donc ce qu'il faut retenir d'Econocom, c'est une entreprise familiale de long terme, c'est une entreprise avec un business model galaxie avec des satellites et des capacités industrielles dans la planète, et parallèlement un groupe qui, d'une façon dans son ADN, combine la location, la distribution et les services. Entreprise familiale, long terme, nous regardons beaucoup l'intérêt de nos actionnaires, encore une fois, sur de larges périodes. Et cette croissance, si nous avons vu le cours de l'action multiplié par 7 entre 2007 et 2017, nous avons augmenté notre nombre d'actions de 206 millions à 245 millions. Nous contrôlons, nous veillons à ce que l'ensemble des opérations que nous menons permettent de garder une enveloppe pour nos actionnaires qui soit à périmètre constant sur des échelles de temps qui sont longues, comme vous le savez. Les ambitions du plan E comme excellence, les ambitions chiffrées, comme vous le voyez sur la partie gauche, c'est de passer de 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires à 4 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2022, dans 5 ans. Et sur la partie droite, en résultat opérationnel courant, de 154 millions cette année à 300 millions en 2022. Ce sont des objectifs ambitieux mais réalistes et je vais vous expliquer de quelle façon nous comptons atteindre cet objectif, notamment de résultat opérationnel courant de 300 millions. Ce plan repose sur 4 piliers. Le pilier principal, le pilier numéro 1, et s'il fallait retenir qu'une seule chose, c'est ce que nous voulons faire sur l'augmentation de la qualité de nos deliveries et de la satisfaction de nos clients. Nous voulons donc travailler sur l'excellence de nos deliveries et des offres, parce que nous sommes convaincus aujourd'hui que nos donneurs d'ordre, qui vivent des expériences digitales, j'allais dire de premier niveau en matière de qualité, lorsque vous achetez un iPhone, eh bien très rapidement derrière, vous avez le bonheur de l'utilisation. Lorsque vous installez une TV box chez vous, vous avez dans les minutes qui suivent les programmes que vous souhaitez avoir. Lorsque vous faites une commande Amazon, c'est parfait, ça arrive en temps et en heure, ça, c'est fluide. Dans le monde professionnel, parce que les entreprises et les organisations sont des personnes morales, qu'elles sont naturellement plus complexes, eh bien ça prend plus de temps. Toutefois, chez Econocom, on ne comprend pas pourquoi il y a un désalignement entre ce qu'on vit à titre privé et ce qu'on vit à titre professionnel dans le digital. Et donc notre ambition dans les 5 prochaines années, c'est véritablement d'aligner les deux qualités d'expérience. C'est le levier numéro 1 du plan, sur lequel nous allons travailler d'arrache-pied pour pouvoir tenir cette promesse vis-à-vis de nos clients, vis-à-vis des organisations. Le deuxième relais de croissance, c'est de travailler sur nos offres. Aujourd'hui, nos clients veulent des solutions digitales intégrées qui combinent le savoir-faire du groupe Econocom, dont ceux des satellites, et évidemment les services, la distribution et le financement. Aujourd'hui, on ne veut plus acheter, on ne veut plus être propriétaire, on veut consommer de l'usage. Eh bien, le financement chez Econocom ne porte plus ce nom de financement, c'est consommer de l'usage. On veut avoir le bénéfice de la solution implémentée dans son service, au même titre qu'on doit quelque part facturer à un client, à un utilisateur, et le rôle d'Econocom est de faire ce lien. Nous voulons également adresser un marché plus large qui est celui de ce qu'il y a autour du digital, parce que lorsque on regarde une usine, lorsqu'on regarde des grands magasins, j'allais dire un peu partout, la frontière entre le digital et l'industriel, finalement, est de plus en plus ténue. Les robots dans les usines sont connectés, les frigos dans les grandes surfaces sont connectés, les caisses enregistreuses, les appareils qui font les inventaires sont connectés. Et aujourd'hui, ce sont des marchés pour Econocom. Il n'y a plus, j'allais dire, l'IT, la mobilité, la mise en... bon nombre de nos clients nous demandent aussi d'intégrer dans leur contrat les assets qui sont connectés à leur IT centrale. C'est le deuxième point sur lequel on va travailler pour nos relais de croissance. Le troisième sont nos satellites, donc je vous disais, ces 20 sociétés qui nous ont rejoints, ce sont encore une fois des sociétés où nous avons pris des participations majoritaires, mais dans lesquelles les patrons restent aux côtés d'Econocom. Il y a une communauté de destin tout à fait intéressante, que nous aimons, parce que chez Econocom, nous sommes des entrepreneurs. Mon père est un entrepreneur. Moi, je le suis moi-même. Je le suis encore aujourd'hui, puisque j'ai ma propre société. Je suis arrivé dans le groupe il y a à peu près un an et demi aujourd'hui. Mais cette capacité, ce plaisir que nous avons à travailler avec des personnes qui ont accepté devant la majorité de leur société pour la faire grandir dans un environnement Econocom, eh bien, c'est une caractéristique forte d'Econocom. Et nous avons créé une plateforme d'accueil et de développement professionnel pour pouvoir accompagner la croissance de ces sociétés dans la galaxie Econocom. C'est le troisième pilier de croissance du plan Ecom Excellence. Et enfin, le M&A, nous allons continuer nos acquisitions parce que, évidemment, d'autres expertises méritent d'être à rassembler dans notre portefeuille d'offres, mais aussi parce que nous sommes une société européenne. Nous avons le statut de société européenne et être européen signifie pour Econocom d'être fort aussi en Allemagne et en Angleterre. Nous voulons renforcer nos trois capacités, financement, distribution, service, en Allemagne et en Angleterre. Parallèlement, nous voulons continuer de faire des acquisitions dans des sociétés à valeur ajoutée importante. Nous pensons notamment à créer une marque européenne de sociétés de conseil en transformation digitale, de façon à faire bénéficier nos clients de toutes les expériences que nous vivons auprès de nos milliers de clients, d'une part, et d'autre part, parce que nous pensons résolument que nos métiers devaient disparaître, qu'est-ce qui devait rester ? Eh bien, c'est cette dose d'expérience qui permet d'adresser les fruits d'une révolution industrielle, comme je vous le disais, de les mettre en œuvre et finalement de faire gagner en rentabilité, en performance, nos clients et les organisations que nous servons. Et c'est véritablement ça la mission d'Econocom. Alors, la contribution de ces quatre piliers au plan stratégique, le premier pilier, comme vous le voyez, va contribuer en ROC à des niveaux de 30 à 40 millions d'euros donc de contributions supplémentaires. Le deuxième pilier, nos relais de croissance, 40 à 50 millions. Le troisième pilier, une contribution donc au résultat opérationnel courant de 25 à 35 millions, les satellites. Et enfin, le M&A à hauteur de 25 à 35 millions. Je vais maintenant laisser la parole à Bruno qui va vous donner des exemples concrets de ce que nous réalisons chez nos clients et qui va vous parler avec ses mots à lui de la galaxie. Merci beaucoup.
Merci Robert pour ce rappel de nos résultats récents et de nos ambitions pour les années à venir. Donc comme je le disais en introduction, nous sommes entrés dans ce nouveau temps stratégique, hein, c'est un nouveau temps stratégique, avec enthousiasme. Alors, je dois vous dire qu'après une année de travail sur le plan E4 Excellence, il y avait une certaine forme d'impatience à entrer dans le vif du sujet. Eh bien voilà, nous y sommes. Et nous sommes donc en route pour la prochaine aventure Econocom, en route pour les nouveaux horizons que tu viens de rappeler, Robert. Les horizons donc qui riment avec excellence. Alors, peut-être un point important, viser l'excellence, pour nous, ce n'est pas un signe d'arrogance. Econocom est, et je pense restera, une société ancrée, profondément enraciné dans le concret, dans le pragmatisme et dans la culture du faire. Nous aimons cette culture. Donc cette ambition d'excellence, cet état d'esprit, c'est simplement la réponse, c'est notre réponse aux demandes que nous entendons et que nous adressent nos clients qui attendent de plus en plus des solutions digitales intégrées qui répondent à des problématiques métiers, qui demandent clairement une prise de responsabilité de bout en bout de notre part, et qui de plus en plus, comme le disait Robert, donc sont facturés à l'usage. Et alors pour y arriver, pour répondre à ces demandes qui deviennent très claires, très pressante, il faut maîtriser tous les maillons de la chaîne de conception, de la chaîne de production, de la chaîne de déploiement et bien évidemment toute l'ingénierie financière, la nôtre, qui correspond bien à chaque fois au modèle business de notre client. Donc l'excellence que nous visons, c'est aussi celle qui répond aux demandes, et ça je pense que vous en êtes tous conscients, on demande parfois un peu paradoxal de nos clients grandes entreprises qui veulent se faire accompagner à la fois par des groupes solides et puissants et qui en même temps, alors le en même temps c'est un peu à la mode, excusez-moi, mais on le vit bien là, qui en même temps cherchent des partenaires réactifs, très agiles, très innovants, et ça on est plutôt du côté des start-up. Et donc c'est avec cela en tête que en janvier 2014, et à partir, je dois le dire, d'une intuition bonne, comme souvent de Jean-Louis Bouchard, et sous son impulsion forte, que nous avons débuté la construction de notre nouvelle, de notre galaxie, de notre nouveau modèle de je dirais, de croissance, d'organisation, de développement et surtout de création de valeur que vous commencez à connaître et que nous illustrons, nous décrivons en utilisant cette métaphore. Alors, je vais essayer de paraphraser ce que t'as dit, Robert, d'une manière un peu très cohérente, j'espère, en tous les cas. Donc, elle est composée, vous voyez, de cette planète au milieu, là, qui croît, qui bénéficie de son écosystème. Donc, c'est une planète qui correspond aux métiers historiques qu'on possède à 100%, à nos trois métiers dont tu as parlé, et qui bénéficient très largement de ce climat créé par la galaxie. Et puis, donc ça, c'est le cœur de la galaxie. Et puis, année après année, investissement après investissement, on a enrichi cet écosystème en s'associant avec des entrepreneurs qui avaient créé, leur société, qui sont souvent des pure players d'un domaine très particulier, très spécialisé, dont nous avons besoin du digital, et dont on pensait qu'il était plus commode, plus rapide, plus efficace, plus dans l'époque, de passer par l'association plutôt que par la création ou l'acquisition pure et simple. Donc ces satellites viennent en synergie d'offres et de démarches commerciales avec les principaux métiers de la planète. Donc c'est un modèle qui marche bien. C'est un modèle assez original et assez compliqué, donc il faut le faire fonctionner. Et donc pour ça, on a formalisé, des règles, une charte des droits et devoirs des uns et des autres. C'est une charte écrite, acceptée par toutes les parties. Et donc pour l'instant, tout ça fonctionne bien. Le climat, l'atmosphère de la galaxie semble fertile et accueillante, planètes et satellites, comme vous l'avez vu, croissent organiquement à un rythme élevé. Les entrepreneurs, ça c'est très très important pour nous, qui adhèrent au modèle, le plébiscite, et souhaitent, s'y installer durablement. Et quand un accord arrive à terme, qu'une option peut être exercée, une option de sortie, pour l'instant, je touche du bois. Dans l'essentiel des cas, il y a renégociation pour repartir sur, une autre période. Et en aucun cas, on a assisté, à des sorties volontaires d'entrepreneurs. Nous constatons, ça c'est aussi très très important je pense, un surcroît d'attractivité des talents du numérique pour la galaxie. Ça nous le mesurons, il y a évidemment une guerre des talents du numérique et ce modèle est assez attractif et nous pouvons attirer donc les talents dont nous avons besoin avec des talents qui souhaitent soit travailler pour un grand groupe, soit travailler pour des plus petites structures, soit qui cherchent de la mobilité entre les compétences. Entre des tailles de structures différentes et surtout des gens qui cherchent un climat qui soit propice à l'entrepreneuriat et qui soit favorable à la prise de risque. Alors voyons ensemble quelques chiffres maintenant qui caractérisent cette construction qui nous est propre et aussi des exemples réels de contrats que nous n'aurions pas gagné sans ce modèle. On en a sélectionné 4. Qui sont une bonne illustration de ce que je viens de dire. En tous les cas, c'est ce que je souhaite. Alors d'abord, quelques chiffres, parce que vous pouvez légitimement vous dire, bon, mais tout ça, c'est des petites structures, c'est sympa, mais qu'est-ce que ça donne? Alors, voilà ce que ça donne. Alors ça, c'est le côté, factuel. On a démarré donc en janvier 2014. À la fin de l'exercice 2014, c'était effectivement encore assez anecdotique, 2% de contribution au chiffre d'affaires. Et puis petit à petit, on est arrivé à peu près d'ailleurs à ce qu'on avait annoncé en juin 2015, quand on avait fait cet Investor Day consacré au modèle de la galaxie. On est aujourd'hui sur une contribution en chiffre conso de 16%. Si on prend le chiffre pro forma des opérations que nous avons menées en 2017, on serait plutôt à 19. Voilà. Donc ça n'est plus anecdotique. Et évidemment, le poids et l'influence que ça peut avoir à l'intérieur de la planète et en termes d'image n'est pas directement proportionnel à ce pourcentage, mais évidemment supérieur. Alors ça nous a permis aussi, ça je pense c'est important pour vous, que vous sentiez bien l'importance que ça a pris pour nous et pour nos clients. Ça nous a permis d'extérioriser un certain nombre de pôles de compétences avec des masses critiques, des tailles critiques. Alors, si on prend le domaine bien en vogue de la cybersécurité, on a réussi en 3 ans à créer investissement et puis regroupement des forces qui étaient à l'intérieur de la planète, un des leaders du marché actuellement. On est dans le top 5 avec Digital Security et Exaprobe de la sécurité, de la cybersécurité, de la sécurité des objets connectés, des systèmes d'information. Et on va pas en rester là. On est assez ambitieux dans le domaine de la sécurité. Si je prends un autre exemple, celui des services sur les plateformes Microsoft, là aussi, avec une opération de M&A et un regroupement des forces du groupe, on a réussi assez rapidement et de manière assez convaincante, vous le verrez avec la confiance de Microsoft sur un des exemples tout à l'heure, on a réussi à créer le concurrent direct d'Avanade en France, et on va pas s'arrêter à la France. Si je prends la partie mobilité, on avait beaucoup de compétences de mobilité. On a fait l'acquisition de très belles sociétés dans le domaine de la mobilité. Et en organisant cela, en regroupant cela, on a créé en France, en Espagne, en Angleterre maintenant, des compétiteurs très sérieux, voire parfois, comme en France, des leaders de développement d'applications mobiles, que ce soit dans le monde industriel ou dans le monde des services. Et on pourrait multiplier comme ça les exemples, mais je vous les laisse découvrir. Donc on a vraiment passé une étape avec des masses de compétences qui nous permettent de jouer dans la cour des plus grands et dans les plus grands projets grâce à ces opérations qui, effectivement, pouvaient paraître parfois un peu petites. Mais c'était le dessin qu'on s'était fixé dès janvier 2014, parce qu'on pensait que c'était le chemin le plus adapté et à l'époque, et à nos moyens, et à notre culture. Alors, aujourd'hui, vous avez ces chiffres. Hein, donc, les satellites contribuent à hauteur d'un peu moins de 480 millions de chiffre d'affaires dans nos comptes 2017. Mais plus important, puisque ça, Galiane va y revenir, moi, ce que je voulais vous montrer, c'est la projection que ça représente à l'horizon du plan E4 Excellence. Et ça, c'est là où on voit que c'est plus du tout anecdotique. Et ce modèle-là prend toute son ampleur et, je pense, tout son intérêt. Donc, on pense qu'entre la croissance organique de l'écurie des satellites qu'on a actuellement et puis les quelques acquisitions qu'on va évidemment continuer à faire, comme le disait Robert tout à l'heure, ben on va arriver à peu près à 1 milliard d'euros par rapport aux 4 milliards hein, dont on parlait tout à l'heure, avec une rentabilité moyenne supérieure à celle de l'ensemble et qu'on projette supérieure à 8%. On s'empêchera pas de faire mieux, mais restons, je dirais, humbles. Et arrivons déjà à cette petite barrière ou à cette petite voilà. Et puis on verra bien. Donc ce sont des chiffres qui vous montrent que c'est un phénomène qui va pas s'arrêter, dans lequel nous croyons et qui aura une influence très structurelle sur le groupe Econocom. Alors des exemples. Alors c'est souvent un petit enfer hein, de prendre l'avion. Alors, je ne sais pas si grâce à Econocom, ça va devenir, quelque chose de beaucoup plus agréable, mais On a récemment passé un contrat global de bout en bout avec le troisième ou le quatrième aéroport français, je ne sais plus exactement, celui de Toulouse, le troisième, voilà. Donc, et alors, ce n'est pas nous qui rachèterons les 10% qui devaient être achetés par les Chinois. Bon, mais nous, on se contente de faire en sorte que l'utilisateur, le voyageur, le collaborateur de la plateforme aéroportuaire de Toulouse vive une expérience quand même beaucoup plus heureuse qu'aujourd'hui grâce à la technologie. Alors, beaucoup plus heureuse, beaucoup plus rapide, beaucoup plus secure, beaucoup plus sûre. Donc, sur tous les systèmes d'information, que ce soit ceux de la protection, que ce soit ceux, je dirais, des bagages, du ticketing, de l'entrée, on est responsable de l'ensemble de ces systèmes d'information jusqu'aux applications qui vous permettent de réserver votre parking. Mais plutôt que d'en parler pendant un quart d'heure, on a un petit film. Et donc, je voudrais demander à la régie de lancer la petite vidéo sur notre contrat de bout en bout avec l'aéroport de Toulouse. Vous allez comprendre un peu ce qu'on y fait avec, je l'espère, et que vous l'apprécierez, une pointe parfois d'humour dans le design de cette vidéo.
These days, the traveler experience is totally digital. You buy your tickets and book your parking space online, check in and board digitally. With digital, it's easy to get off to a flying start. To keep pace with these new users, Toulouse-Blagnac Airport, France's third largest regional airport, offers travelers a simple, pleasant experience. A connected guided journey which saves time for travelers and turns any waiting time into a comfortable, relaxing experience. Excuse me, sir. You really have to go now? Your flight's about to leave. This is why the airport is investing in a number of projects, such as a new shopping centre, a new security check system, new boarding areas and a 4-star hotel. The sky's the limit.
Zero and liftoff.
With traffic on the increase and habits changing constantly, how can Toulouse-Blagnac Airport leverage digital to ensure reliability, security and performance for airlines and passengers? By having complete control of the monitoring tools and the technologies to ensure faultless running of the airport at all times.
Wow!
Displaying real-time flight information, automated baggage handling, reliable security checks and printing out boarding cards quickly requires deploying highly effective IT systems. We're talking the Rolls-Royce of infrastructure, the Mona Lisa of digital, the Patrick Swayze of equipment, and focusing the user experience on excellence.
Good job.
To ensure the airport runs smoothly, airlines and travelers can rely on a faultless IT system and the responsiveness of Econocom's teams 24/7. Because airports never sleep and can't afford to make mistakes, they needed the best.
I make this look good.
In short, Econocom's USP is that we guarantee an optimum service for users by helping Toulouse-Blagnac become the airport of the future.
Bon, personnellement, moi, je n'ai pas un goût prononcé pour Patrick Swayze, mais il paraît que bon, c'est une sorte de référence. Enfin, dans le film qui est là, moi, je connaissais Point Break simplement, mais apparemment celui-là, je crois que c'est Dirty Dancing et pas mal non plus. Alors, vous voyez que on est sur des choses quand même incroyablement proches. Robert disait tout à l'heure, dans le monde de l'entreprise, il faut qu'on se rapproche de plus en plus des standards du B2C qu'on vit tous les jours. Mais on voit bien que là, si on veut être au cœur de la modernisation technologique des organisations, comme un aéroport qu'on vit tous les jours, ben on a besoin, je dirais, à la fois de cet état d'esprit d'excellence, hein, de cette capacité d'engagement de bout en bout, de cette possibilité de facturer nos prestations en fonction de la valeur créée, en fonction de la manière dont les clients les utilisent, et d'avoir des capteurs un peu sur l'ensemble, je dirais, des domaines du digital. Alors un autre exemple, alors là on est plutôt backstage, c'est celui d'un client bon, qui souhaite pas être nommé, mais qui est, vous le reconnaîtrez probablement, le principal discounter de produits non alimentaires en France. Il y a, je crois, à peu près 500 magasins. Voilà. Et donc, lui, il avait une problématique assez simple pour l'ensemble de ses employés, disons, qui gère les stocks, la traçabilité de toutes les, je dirais, de tous les flux entrants, les flux sortants, la démarque. Et donc là aussi, nous a confié de bout en bout, je dirais, la gestion de sa plateforme digitale, sa plateforme technologique. Et là, pour y répondre, on a eu besoin, là aussi, je dirais, des compétences de la planète et des compétences et des caractéristiques de certains de nos satellites. Là, en l'occurrence, c'était Rayonnance, je crois, parce qu'il y avait beaucoup de PDA durcis à déployer. Il fallait développer des applications dessus. Et puis, évidemment, il faut les maintenir, il faut les financer. Et là, c'est la planète qui répond présente. Donc là aussi, on voit bien que on a réussi à se mettre au cœur, je dirais, du modèle de delivery. On est part of the fabric de notre client. Alors un nouvel exemple très très différent qui témoigne là de la confiance que nous témoigne Microsoft. Et là aussi, je pense que sans le satellite Infini qui porte nos services Microsoft, et puis la taille, la solidité de la planète qui finance, qui vend les produits et les services Microsoft, on n'y serait pas parvenu. Ben, on a été sélectionné par Microsoft pour être le distributeur exclusif de fait en Europe, à part en Allemagne, où c'est un autre partenaire qui est beaucoup plus présent que nous, des HoloLens. Alors ça, on est quand même là, on n'est plus dans l'image qu'on avait d'Econocom il y a certain temps. HoloLens, vous voyez, c'est de la réalité mixte, donc c'est la capacité pour un chirurgien d'opérer en ayant les infos, c'est un technicien de réparer en ayant des infos et la vision de ce qu'il a devant lui. Donc c'est des applications, pour la formation, l'éducation, ça va évidemment être des applications fabuleuses. Donc là, on est sur des choses quand même assez cool et assez sympa. Et donc, ça, c'est devenu aussi Econocom, grâce au modèle. Et là aussi, on a une petite vidéo que vous allez découvrir avec nous, j'espère, avec un peu de gourmandise. Ce qui est assez génial dans ce genre de partenariat, c'est qu'il y a quand même Microsoft qui nous fait confiance pour diffuser ce produit emblématique dans les entreprises. Ça ne peut pas passer par quelqu'un d'autre qu'Econocom. Ça nous permet, nous, de fédérer évidemment toutes les start-up. Il y en a déjà 9 avec lesquelles on travaille, qui développent des applications. D'accord ? Donc là, on n'est pas sur du lien capitalistique, mais on est sur de l'accord de coopération. Et c'est tout sauf anecdotique, hein, ça, parce qu'on a déjà une trentaine de contrats avec des grands noms, hein. J'en ai quelques-uns là, il y a Renault pour la partie sport, il y a Framatome, il y a Airbus, il y a la société suédoise ABB, il y a PSA, enfin on voit bien les applications absolument géniales qu'il y a derrière et le mouvement, la vague qui arrive. Donc on est très heureux, merci Microsoft. J'ai vu Jérôme tout à l'heure qui était dans la salle. On sera au rendez-vous. Alors et dernier exemple, c'est un exemple dont on vous avait parlé il y a 2 ans, donc on a repris le même pour ceux qui l'avaient déjà vu, parce qu'il montre bien comment ça marche chez un client. Et ça, je pense que ça peut vous intéresser. Ça, c'est un très grand assureur mondial pour qui on travaille depuis, vous le voyez, très longtemps. On avait commencé par des prestations verticales, assez classiques. Et puis, petit à petit, avec une démarche commerciale de plus en plus élaborée, hein, ça prend du temps, on y arrive, vous le voyez, on a réussi à convaincre le client, je dirais, d'empiler, et j'utilise ce verbe à dessein, un certain nombre de prestations. Et puis, il y trouvait évidemment son avantage, un interlocuteur unique. Et puis, on est arrivé comme ça en 2016 à, vous voyez, un chiffre d'affaires tout à fait intéressant par an. Et puis, en 2016, on lui a dit, mais non, c'est plus comme ça qu'il faut qu'on fonctionne, si vous en êtes d'accord. On va plutôt faire un seul contrat. Et plus des contrats de financement, de distribution, ça va être un contrat de service. Vous allez utiliser l'énergie digitale, les solutions digitales sous un seul contrat, et puis on va vous le facturer à l'usage. Et alors ça, bon, alors ça prend un peu de temps, parce qu'évidemment, en face de nous, on a des gens qui disent oui spontanément, puis après, il faut mettre en œuvre, hein, la direction des achats, la direction informatique, mais on commence nous-mêmes à bien nous équiper en termes contractuels et d'argumentaires commerciaux. Et vous voyez là, vous voyez ce que ça peut donner, parce que là, on passe sur des volumes qui deviennent très intéressants, la stickiness client, elle est évidente. Et puis le dialogue qu'on a avec eux, il est plus du tout le même que si on était sur de la négociation de contrat unitaire. On est sur de la qualité, on est sur de l'excellence, on est sur de la valeur. Donc ça, c'est la réalité de ce qu'on fait de plus en plus pour des grands clients. Et je voulais vous en parler parce que je pense que c'est un bon moment d'en prendre conscience alors qu'on démarre ce plan IFOR Excellence. Et nous allons continuer. Nous allons continuer, c'était le résultat, donc en 2018, on va encore augmenter, je dirais, notre volume de facturation, mais sur des contrats totalement, sur un contrat totalement différent en nature, puisque c'est un contrat de service à l'usage, à la valeur. Alors on va continuer à enrichir notre modèle, parce que si beaucoup de choses vont changer, ça, ce modèle, il a été confirmé par Robert, il a été plébiscité par nos clients, par les entrepreneurs, donc ça, on va pas changer. Et on va continuer dans cette politique de M&A sélective, d'opérations modestes, mais qui, à la fin, font quand même des masses, vous voyez, très importantes. À la fin du plan, 25% du chiffre d'affaires du groupe. C'est pas rien, 1 milliard d'euros dans le digital. Et on a continué cette année, déjà quelques exemples, hein, et on va continuer, on a déjà des opérations dans le pipe pour 2018. Évidemment, on ne pourra pas répondre à la question mais qui sont-ils, quelles sont-elles? Mais ça, c'est des opérations qu'on a faites. Donc, une très belle opération acier net sur la partie intégration des gros data centers et un très fort partenariat avec Cisco. Une agence digitale qui a été, prise et par Alterway, dont je vois le fondateur ici. Merci Philippe d'être parmi nous. Un éditeur de software dans le data mining et dans la data analysis, un très bel opérateur dans le multimédia en Hollande et en Belgique, qui s'ennuyait dans son groupe américain. Et il s'éclate un peu maintenant avec nous. Et vraiment, c'est en plus le patron est génial, il a pas pu venir, mais bon, c'est vraiment super ce genre d'opération. Et puis vous voyez aussi que c'était les 7 dont parlait Robert tout à l'heure. On sort de nos frontières, hein, c'est un des objectifs stratégiques du groupe. Donc vous voyez que on a fait des opérations entrepreneuriales là au UK et en Allemagne. JAD, JTRS, donc JAD c'est de la mobilité professionnelle, ce qu'on appelle le crowd wifi, c'est quand vous rentrez dans un magasin, on vous reconnaît, on vous pousse des coupons, on vous propose des choses, enfin on personnalise, donc c'est un mélange de technologie et de marketing qui est assez impressionnant en termes d'efficacité. Et puis EnergyNet en Allemagne, on est très content de mettre un pied dans la partie distribution multimédia B2B, en particulier des produits Apple. Et le more to come, bon, restera un peu allusif, mais il y aura des CP cette année sur des opérations. Voilà. Donc ça, c'était les preuves tangibles que je voulais vous donner et les éléments que je souhaitais vous communiquer pour vous donner l'état de santé de la galaxie et le poids des satellites. Et maintenant, celle que vous attendez tous, Galiane, et ses chiffres, et ses explications, et sa pertinence, Laser Focus, c'est elle. Je lui laisse la salle. Merci de votre attention.
Bonjour à tous. Merci Bruno pour cette présentation du modèle de la galaxie et ton enthousiasme. Donc vous l'avez compris, Bruno joue un rôle clé de grand ordonnateur dans cette stratégie d'investissement dans les satellites. C'est lui qui les identifie, c'est aussi lui qui les séduit et qui convainc les entrepreneurs dirigeants de rejoindre le groupe Econocom. Je vais maintenant vous donner quelques éléments chiffrés qui, je pense, attestent la pertinence de ce modèle de développement. Alors, le chiffre d'affaires du groupe, 2 milliards 980 millions d'euros. Ce chiffre d'affaires, il est à l'image de la croissance mixte du groupe. Forte croissance de 17,5% et une croissance organique de 11,2%. Ces 3 milliards, ça, c'est un chiffre évidemment important pour nous. C'est l'atteinte de l'objectif qu'on s'était fixé il y a 5 ans. Je dirais même qu'on le dépasse cet objectif puisqu'on s'était à l'époque fixé l'objectif d'un chiffre pro forma de 3 milliards en 2017. Et là, c'est un chiffre publié. Donc je suis moins modeste que l'a été Robert tout à l'heure. On dépasse l'objectif plutôt qu'on l'atteint, et également notre guidance 2017, je vous le rappelle, on s'était fixé une croissance organique de plus de 5% et on atteint 11%, un peu plus de 11%. Donc là aussi, je pense que on peut dire que on dépasse cet objectif. Alors cette dynamique de croissance, elle est portée, Robert et Bruno vous l'ont dit, par un certain nombre de tendances fondamentales du marché qui sous-tendent la croissance d'Econocom. On parle évidemment du marché de la transformation digitale, on parle évidemment de cette prépondérance de l'usage sur la propriété, mais il y a également des catalyseurs, les catalyseurs propres à Econocom. Bruno vient de parler avec brio notamment de la stratégie satellitaire et également notre positionnement en tant qu'intégrateur de solutions qui nous permet de proposer à nos clients des solutions qui intègrent nos trois métiers et d'être celui qui va... je dirais, s'occuper de toute la complexité technologique de ces solutions pour le compte de nos clients. Un point important sur le chiffre d'affaires, c'est que nos trois activités contribuent à cette bonne dynamique de chiffre d'affaires, puisque toutes ont une croissance organique proche ou supérieure à 10%. Alors, un élément particulier de la croissance d'Econocom, sa croissance organique. Alors, elle est particulière parce qu'elle est forte, certes, mais elle est aussi particulière parce qu'elle n'est pas linéaire. Donc là, vous pouvez voir derrière moi la croissance organique par trimestre du groupe. Vous nous comparez souvent aux grandes sociétés de services, aux ESN, dont l'essentiel des activités repose sur des contrats pluriannuels. Ces sociétés constatent leur chiffre d'affaires mois après mois et donc ont une croissance de leur chiffre d'affaires qui est assez linéaire. Ce n'est pas le cas pour Econocom. Pourquoi ? Parce que plusieurs de nos grands métiers ne repose pas sur cette dynamique-là. Les activités de distribution, par exemple, c'est 20% du chiffre d'affaires du groupe. Les activités de services d'intégration, qui représentent à peu près 20% du chiffre d'affaires des services. Et évidemment, nos activités de location, c'est 45% du chiffre d'affaires. Dans la location, vous le savez, on constate le chiffre d'affaires et la marge associée au moment où on signe et où on livre les solutions chez nos clients. Et donc, on constate la totalité du chiffre d'affaires, en hormis FRS, c'est-à-dire l'actualisation des flux de loyers sur toute la durée du contrat. Ben, ça peut créer, je dirais, une certaine volatilité dans la croissance organique. Et évidemment, si vous signez des contrats le 29 juin, c'est pas la même photo au 30 juin que si vous le signez le 2 juillet. Et pourtant, si on prend un peu de recul, économiquement, c'est la même chose et la valeur du groupe est exactement la même. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles on vous invite à... plutôt à raisonner sur des tendances moyen terme, 9 mois, sur 9 mois ou sur 12 mois pour analyser la croissance organique du groupe. Ça vous évitera d'être déçu, je dirais, quand il y a un trimestre qui est un peu faible, comme ça a été le cas sur le Q2 l'année dernière. Et puis, ça évitera aussi d'être excessivement enthousiaste quand la croissance est particulièrement dynamique. On a eu une croissance organique de plus de 20% sur le T4 en 2017. Donc, je vous invite à ne pas tirer les courbes. Et on ne s'engage pas à avoir une croissance organique aussi dynamique à l'avenir. Le résultat opérationnel courant, donc 154,4 millions d'euros en croissance de 10,1%, un taux de marge à 5,2. C'est la troisième année consécutive pour le groupe de progression à deux chiffres du résultat opérationnel courant. C'est là encore en ligne avec la guidance que nous avions annoncée en début d'année. C'est un peu au-dessus de l'objectif que nous nous étions fixé il y a maintenant 5 ans, puisqu'on visait plus de 150 millions d'euros de résultats opérationnels courants. Vous le savez, cette année, et contrairement au chiffre d'affaires, ce résultat est plus contrasté par activité. On va y revenir. Mais c'est aussi la force du modèle Econocom que d'être capable de mobiliser ses activités quand l'une d'elles a un résultat un peu plus en demi-teinte. Je pense qu'on l'a prouvé depuis des années. Et ça a fonctionné encore une fois au cours de l'exercice 2017. Un dernier élément sur ce résultat opérationnel courant qui est important, c'est que cette performance, on l'a fait, mais pas aux dépens ou au détriment des investissements que nous avions programmés. Les investissements représentent à peu près 10% de ce montant. Donc on investit dans la transformation du groupe. Et on investit dans des nouvelles offres. Le groupe a doublé de taille encore en 5 ans. Donc évidemment, il faut structurer, il faut développer, il faut se transformer. Et nous avons continué à le faire au cours de l'exercice 2017. Et nous vous l'avons annoncé, nous continuerons à le faire l'année prochaine, première année du plan. Et notamment pour préparer le succès du plan stratégique E4Excellence et récolter les fruits de ces investissements sur les dernières années du plan. Je vais vous donner quelques éléments par activité maintenant. En commençant par la plus importante en chiffre d'affaires, donc l'activité de location, Technology Management and Financing. Son chiffre d'affaires est de près de 1,4 milliard. Forte croissance du chiffre d'affaires, également forte croissance de la rentabilité du résultat opérationnel courant. Donc très belle année pour notre activité TMF. Une dynamique qui est portée, on l'a dit tout à l'heure, par des fondamentaux du marché. Également par une initiative que nous avons prise il y a quelques années, il y a 4 ans, qui est de créer une société de refinancement interne au groupe, EDFL, qui a vocation à accélérer la croissance du groupe dans cette activité, qui a vocation à apporter des contrats, je dirais, qui sont plus complexes, qui nécessitent plus d'ingénierie locative ou qui sont adossés à des types d'actifs différents et que nos partenaires financiers, au moins dans un premier temps, ne souhaitent pas refinancer. Cette société de refinancement interne, elle est clé dans la croissance du groupe et de cette activité. Elle représente à peu près 50% de la dynamique de croissance de l'activité TMF. Donc c'est un accélérateur, mais ce n'est pas toute la totalité de la croissance de cette activité sur l'année, c'est la moitié. Et elle contribue pour 192 millions d'euros au chiffre d'affaires de l'activité TMF cette année. Un élément également important dans la dynamique de croissance de cette activité TMF, Robert en parlait tout à l'heure, c'est la diversification de cette activité vers des projets de modernisation qui vont au-delà du monde de l'IT. On souhaite mettre à la disposition de nos clients et du marché toutes nos compétences en termes d'ingénierie locative pour accompagner nos clients sur des projets de modernisation donc qui vont au-delà de l'IT traditionnel. Donc c'est quelque chose qui contribue à la croissance de façon à vous permettre d'identifier les volumétries, je dirais, dont on parle. On a décidé depuis cette année de vous présenter les valeurs résiduelles qu'on appelle industrielles, donc qui portent sur des actifs qui sont différents des actifs IT traditionnels. Nos valeurs résiduelles, c'est 141 millions d'euros. C'est 2,5% du prix d'achat de nos contrats, donc c'est un montant qui est très limité. Et il y a un petit 10% de ce montant qui représente les valeurs résiduelles sur ces actifs industriels. Donc de quoi parle-t-on ? Robert en parlait tout à l'heure. On peut parler de robots, on peut parler de drones, on peut parler dans le monde du retail de la chaîne du froid qui intègre maintenant beaucoup de technologies et qui est connectée au système d'information. On peut parler du monde du médical, donc des nouveaux types d'actifs dont on va suivre les valeurs résiduelles de façon isolée pour vous donner en toute transparence des éléments sur cette activité. Un dernier point important, la taille du portefeuille. Pour vous donner une idée de ce que représente cette activité pour le groupe, le portefeuille de location, c'est 5,6 milliards de prix d'achat d'origine, c'est 2,6 milliards d'encours. Ces deux éléments progressent significativement cette année, avec des croissances respectives de plus de 6 et de plus de 8%. C'est important pour nous parce que dans ce métier, on demande à nos commerciaux de faire fructifier ce portefeuille, de faire évoluer nos contrats. Donc le fait d'avoir une base de contrats qui progresse, c'est évidemment porteur d'avenir et de marge pour le futur. Nos activités de service maintenant. Alors dans nos activités de service, c'est une année contrastée avec beaucoup de sujets de satisfaction en matière de dynamique de revenus, de croissance du revenu, puisque vous voyez que la croissance est de 25% et la croissance organique de près de 13%. Et un résultat opérationnel courant qui, lui, est plutôt en demi-teinte. On va revenir sur ce sujet. Donc, cette belle croissance, elle est portée par quoi? Elle est portée par des grosses affaires dont parlaient Robert et Bruno, des très gros deals de plusieurs dizaines de millions d'euros que Econocom et même Osiatis, que nous avons acheté en 2013, n'étaient pas capables de signer à eux seuls, mais que, fort de la surface du groupe et de son image, nous sommes aujourd'hui capables de signer. C'est important. Pourquoi? C'est important en termes d'exigence dans le delivery, et vous avez compris que c'était un élément stratégique et clé pour nous. C'est important en termes d'image, c'est aussi important parce que, comme l'a montré tout à l'heure Bruno, nous sommes capables ensuite, chez ces grands comptes, de faire fructifier le modèle d'Econocom et de vendre d'autres types d'offres, les offres de nos satellites et de nos autres activités. Donc c'est prometteur et c'est un sujet de satisfaction évidemment pour le groupe d'être sélectionné parmi les plus grands acteurs du secteur par ces grands comptes. Un autre élément qui contribue à la dynamique de chiffre d'affaires, c'est notre capacité, comme le disait Bruno, à signer des affaires transversales à nos métiers et transversales planète-satellite. Et enfin, évidemment, la dynamique qui est liée aux satellites. Et satellites, ça représente à peu près 40% du chiffre d'affaires de l'activité service. Ça contribue à la croissance de l'activité service, mais la planète, elle aussi, est en croissance, avec une croissance qui est de l'ordre de 2%. Donc la planète, je dirais, grandit au même rythme que le marché, et les satellites jouent leur rôle d'accélérateur de cette croissance. En termes de rentabilité, donc le résultat opérationnel courant est de 43,4 millions d'euros, 4,3%, avec ces grands contrats dont je vous parlais tout à l'heure, qui ont un impact, dans un premier temps, plutôt défavorable sur la marge. Pourquoi ? Parce que quand on rentre chez ces grands comptes-là, il y a ce qu'on appelle des coûts de ramp-up. Il faut prendre possession du sujet. Il faut souvent récupérer des périmètres qui ont été gérés par d'autres prestataires de services. Il faut se doter des bonnes ressources qui, au départ, avec un taux d'utilisation qui n'est pas forcément optimisé. Donc ça coûte les premières années. Ça coûte durant les 12, les 18, voire les 24 premiers mois. Et ensuite, on fait fructifier ces investissements sur les dernières années de ces grands contrats. Donc ça a coûté en 2017. Ça coûtera encore un peu en 2018. Un autre élément qui est à la fois une source de satisfaction et de complexité, ce sont les affaires transversales à la planète et aux satellites. De satisfaction, parce que c'est évidemment la quintessence du modèle, c'est de faire travailler la planète et les satellites ensemble. On n'est pas un investisseur financier. Ces compétences, on veut les acquérir parce qu'elles apportent beaucoup de synergie sur la planète. Mais en revanche, après, il faut faire travailler ensemble ces usines, les usines des satellites et les usines de la planète. Ça se fait avec un petit peu de frottement au démarrage. Il faut faire des investissements pour avoir la qualité de service qui est attendue par nos clients. Et ça a un peu pesé sur la rentabilité, en tout cas en 2017. Voilà, alors si on regarde les choses plus positivement, je dirais que ça nous laisse des belles perspectives d'amélioration de nos marges dans cette activité de service, puisqu'on est à 4,3% cette année en 2017. Product and Solution, alors que dire, encore une année, je dirais, remarquable, tant en chiffre d'affaires qu'en résultat, avec une troisième année de forte croissance, donc une croissance à deux chiffres de 13% dans un marché qu'on dit plutôt en décroissance, donc des gains de part de marché de la part de nos équipes en Product and Solution, également une très forte progression, vous le voyez, du résultat opérationnel courant. Alors c'est lié à quoi ? C'est lié évidemment à la qualité du management. Alors je ne sais pas s'ils sont dans la salle, je ne les vois pas. Mais je le répète, donc à la qualité du management dans cette activité-là, et puis à des prises de position sur les segments qui sont aujourd'hui les segments les plus porteurs, et on l'a peut-être fait avant nos principaux concurrents. Je pense notamment au marché de la mobilité, je pense au marché du multimédia, qui sont des segments qui portent aujourd'hui une partie de cette dynamique de croissance. Alors dans le multimédia, on s'est développé en Espagne il y a deux ans par l'acquisition de Caverine. C'est une acquisition qui est très satisfaisante pour nous parce qu'elle a depuis deux ans des très forts taux de croissance, beaucoup de synergies avec nos activités de location. En fait, c'est les synergies, je dirais, qui sont les plus faciles à faire entre la distribution et les services et entre la distribution et la location. Et Caverine en atteste et nous avons essayé de reproduire ce succès au Benelux puisque nous avons acheté, comme le disait Bruno, le groupe BIS à 100% qui est actif aux Pays-Bas et en Belgique et dont on attend également des synergies dans cette géographie. Energinet également en Allemagne, Bruno en parlait tout à l'heure, donc on déploie cette activité dans des nouveaux pays et en particulier, on vous l'a dit, en Angleterre et en Allemagne qui sont deux pays stratégiques pour le prochain plan, enfin le plan actuel e-com excellence. Quelques mots sur le compte de résultat, rassurez-vous, je vais être assez rapide, on a déjà parlé du ROC et du chiffre d'affaires, donc je ne résiste pas à mettre en avant la progression du résultat net cette année qui est de 177%, ça ne nous arrive pas tous les ans. Alors il y a un effet de base qui nous est favorable, puisque l'année dernière, il y avait une charge exceptionnelle liée au mark-to-market de l'Ornan, que nous avons converti cette année. Donc, ce qui est plus révélateur de notre tendance fondamentale, c'est l'évolution du recurring net profit, du résultat net récurrent, qui est en progression de près de 14%, donc à 94,5 millions d'euros. C'est une progression qui est plus rapide que celle du ROC. Ça atteste du fait que à la fois le résultat financier et l'impôt ont été bien gérés cette année, avec une diminution du résultat financier, enfin une baisse des charges financières encore cette année hors éléments exceptionnels liés à l'Ornan, et puis un taux d'impôt qui est en baisse et qui a bénéficié, je dirais, cette année d'un mix pays qui nous est plutôt favorable. Également, je souhaitais vous parler de la progression du résultat net récurrent par action. Vous savez qu'on a converti l'Ornan cette année. Ça nous a amené à créer un certain nombre d'actions. Donc, c'est une opération dilutive pour à peu près 9% du capital. Et malgré cette opération, le résultat récurrent net par action progresse de 5,4% sur l'année. Donc, c'est un sujet de satisfaction également. Vous voyez dans ce compte de résultat des éléments non récurrents. Vous l'aviez anticipé. Hein, c'était dans vos modèles, à peu près 0,7% du chiffre d'affaires, donc un petit 20 millions d'euros qui sont liés à la nécessaire transformation du groupe comme c'est traditionnel, je dirais, dans nos métiers, dans les métiers de service. Ces coûts exceptionnels, ils portent, je vous le disais, sur la transformation, en particulier dans les services, également sur nos locaux. C'est important pour nous de regrouper, de rapprocher nos équipes et de les accueillir dans des locaux, je dirais, qui sont attractifs, attrayants. Les ressources humaines, c'est l'actif clé du groupe et ça fait partie des éléments différenciants et des éléments d'attractivité du groupe. Et également des coûts exceptionnels liés au M&A et à notre stratégie de croissance mixte, tant des coûts d'acquisition que d'intégration, même si on intègre peu nos satellites. La dette financière nette maintenant. Donc la dette nette du groupe, elle est de 279 millions d'euros. Elle est maîtrisée. Vous voyez qu'elle ne représente que 1,5 fois l'EBITDA. Notre dette, elle a elle aussi une particularité qui est qu'il y a plus de 200 millions d'euros sur cette dette nette, 207 millions d'euros qui sont adossés à des contrats de location. Donc c'est de la dette qui, je dirais, qui se rembourse toute seule, puisqu'il y a des flux de loyers qui viennent compenser les remboursements de cette dette. Donc c'est un élément qui est évidemment majeur. C'est pas de la dette qui est de la même nature que de la dette bancaire traditionnelle. Le premier élément, c'est le gross cash, 102 millions d'euros. Donc en fin d'année, on avait des positions bancaires nettes de nos billets de trésorerie qui représentaient 102 millions d'euros. C'est important, c'est une marge de liberté, une marge de manœuvre pour nous, évidemment. Et à cela, il faut ajouter à peu près 280 millions d'euros de lignes de crédit qui sont disponibles, qui n'étaient pas tirées en fin d'année, dont à peu près 180 sécurisé, garanti. Donc c'est important, évidemment, parce que ça nous permet de gérer avec une certaine sérénité nos affaires. Deux emprunts obligataires, on en avait trois l'année dernière, donc vous voyez la disparition de l'Ornan, et également un point sur lequel je voulais revenir, vous voyez 124 millions d'euros de contrats refinancés avec recours, donc ce sont des contrats de location qui ont été refinancés auprès de certains d'entre vous, avec un recours sur le groupe. Compte tenu du taux de défaut de nos clients, il est très probable qu'on n'ait jamais à rembourser ces sommes, ou en tout cas, si on avait à le faire, ce serait pour une partie tout à fait minime de ces montants, mais comptablement, c'est de la dette nette. Je vous laisse le soin de savoir souhaiter la retraiter ou la considérer comme la dette nette. Alors qu'avons-nous fait de notre argent cette année et comment s'explique l'évolution de notre dette nette sur 12 mois ? Bon, un point majeur qui a été répété à plusieurs reprises depuis le début de cette présentation, c'est une année d'investissement. Vous le voyez, on a investi près de 163 millions d'euros dans nos opérations. Quand je parle d'opérations, je parle à la fois des investissements qui ont été faits dans nos activités de location, donc notamment EDFL, la société de refinancement interne, dans nos CAPEX et dans le M&A dont on parlait tout à l'heure, et en particulier des satellites. Donc 163 millions d'euros investis dans nos opérations. Également 51 millions d'euros dans notre stratégie de retour aux actionnaires, qui prend deux formes. Évidemment, l'équivalent d'un dividende, hein, dans le cas d'Econocom, c'est un remboursement de prime d'émission, mais c'est l'équivalent, pour 24 millions d'euros. Et 27 millions d'euros en rachat d'actions propres, puisque vous savez que on a ce souci de bien gérer la dilution de l'actionnariat, et c'est un de nos outils pour le faire. Et c'est un actif pour le groupe, hein, on a 3,9% des actions émises sont aujourd'hui auto-détenues par le groupe. C'est un actif qui représente 57 millions d'euros, dont on saura utiliser intelligemment et qui nous permet de gérer la dilution, qui nous permet d'être utilisé quand on a des plans d'incentive du management, par exemple, ou dans le cadre d'opérations de croissance externe pour payer une partie du titre en actions et, je dirais, lier notre avenir avec l'avenir de ces sociétés. Un point que je ne veux pas évidemment passer sous silence, c'est l'évolution du BFR. L'évolution du BFR, elle est négative de 88 millions d'euros cette année. Elle était positive l'année dernière de 70 millions d'euros et de plus de 50 millions d'euros l'année d'avant. Donc je vais y revenir pourquoi. Alors pourquoi cette évolution ? La première des raisons, c'est que vous le savez, on vous l'avait annoncé dans le communiqué de presse sur le chiffre d'affaires à fin Q3. On avait un challenge important sur le dernier trimestre, un gros trimestre à réaliser. Et très clairement, on a fait le choix de donner la priorité aux affaires plutôt que de donner la priorité au cash. Pourquoi ? Parce que c'est compliqué de donner deux objectifs aux équipes et on a une certaine sérénité sur le chiffre d'affaires puisqu'on voit bien qu'on reste dans des ratios qui sont des ratios maîtrisés. Donc ça explique une partie de cette variation du BFR sur l'année. Un autre élément qui est important qu'on avait rappelé en janvier qui est là. Je dirais qu'il y a un élément un peu non récurrent. L'année dernière, on avait réussi, je dirais, à optimiser cette situation de trésorerie. Jean-Louis Bouchard, qui était sur l'estrade, avait été extrêmement transparent sur le sujet. Il y a à peu près 40, voire 50 millions d'euros qui étaient liés, je dirais, à un effet de base défavorable en début d'année. Alors, à quoi faut-il s'attendre pour l'année prochaine ? On a identifié un certain nombre de sources d'amélioration, notamment chez nos satellites. Les satellites, je dirais, ont moins habitude de gérer de près leur trésorerie. Donc il y a des axes d'amélioration importants, notamment dans la gestion des stocks ou dans le factoring chez certains de nos satellites. Donc on anticipe une amélioration, des axes d'amélioration qui seront, nous le pensons, compensés par la dynamique du business. Donc une variation qu'on anticipe plutôt neutre sur le BFR l'année prochaine. Il faut évidemment anticiper, on en a déjà parlé, une nouvelle année d'investissement qui nous conduit à dire que la dette sera vraisemblablement au moins du même niveau que celle de cette année. Et on continuera à veiller à ce que les ratios soient des ratios raisonnables et satisfaisants pour nous comme pour vous. Le bilan, alors très rapidement, le bilan, je voudrais juste insister sur un point, les fonds propres, parce que c'est l'événement marquant concernant le bilan de l'année. On en a parlé, la conversion de l'ORNAN, elle vient renforcer les fonds propres. Vous voyez qu'ils progressent de plus de 200 millions d'euros, donc un bilan qui est solide en cette première année du nouveau plan stratégique Mutation. J'ai parlé également des actions propres. Nous avons un actif donc qui est à peu près de 57 millions d'euros qui figure nulle part, mais dont on saura faire bon usage. Un élément important, la rémunération de nos actionnaires. Vous voyez que on va proposer à l'Assemblée générale des actionnaires qui se réunit, je crois, le troisième mardi du mois de mai, de voter non pas un dividende, mais un remboursement de prime d'émission de 12 centimes par action, donc une progression de 20% malgré l'augmentation du nombre de titres en circulation. Donc une nouvelle progression de la rémunération des actionnaires qui atteste de la confiance du groupe dans son avenir. Et enfin, pour finir, un élément qui est un élément structurant, L'actionnariat, donc on a parlé de la conversion de l'Ornane cette année qui nous a permis de mettre en circulation un certain nombre de titres et de renforcer le flottant du groupe. Et l'élément structurant dont je parlais tout à l'heure, c'est évidemment l'actionnariat familial. Donc juste à présent, on parlait de la participation détenue par Jean-Louis Bouchard. Mais Robert est également un actionnaire important du groupe. Et c'est clé pour nous dans notre capacité à mettre en œuvre des projets sur le long terme et à attirer des entrepreneurs qui viennent rejoindre la galaxie Econocom. Robert, je te laisse la parole pour conclure cette séance et donner... des perspectives sur l'année 2018.
Merci beaucoup, Gaëlle. Bien, il me revient la responsabilité donc de vous parler de notre sentiment pour l'exercice 2018. Vous avez vu les illustrations de notre stratégie par Bruno. Les chiffres 2017 détaillés par Galiane et notre sentiment sur l'exercice 2018, c'est que nous allons réaliser un chiffre d'affaires supérieur à la croissance de nos confrères, donc encore une fois sur 2018, et un résultat opérationnel courant en croissance par rapport à 2017. C'est ainsi que s'achève cette présentation. Il y a bien évidemment une séance de questions et donc je vous invite à poser vos questions. J'ai demandé également à Bruno et Galiane de me rejoindre et alors, de votre côté, de poser l'ensemble des questions que vous souhaitez sur les géographies, sur les métiers. On vous répondra ou les responsables présents dans la salle de nos activités pourront aller davantage dans le détail pour être exhaustif sur les réponses que vous êtes en droit d'obtenir.
Alors un petit point pratique et peut-être de méthode. Donc vous posez évidemment les questions en nombre et en nature que vous souhaitez. Si vous pouvez simplement nous poser une question à la fois, non pas les empiler, parce que parfois,
probablement, on peut choisir,
on perd un peu le fil. Donc, allez-y. Didier.
Oui, bonjour. Moi, c'est juste ça. Précision sur cette stratégie des satellites et de la galaxie. Il y a une limite, c'est combien, c'est quoi le nombre de satellites maximal que vous pouvez envoyer et qu'est-ce qu'il y a de transversal dans tout ça?
Ouais.
Je suis désolé, j'en ai posé deux.
Ouais.
Mais moi, tu sais, j'aime pas respecter tes règles.
Tu seras puni, évidemment.
Écoute, on n'a pas théorisé la chose encore. D'abord, le nombre. Merci, Romain.
D'abord, le. Ouais, si ça fonctionne. Voilà. D'abord, le nombre de satellites, il peut évoluer à la hausse ou à la baisse. C'est-à-dire qu'on peut... pourquoi la baisse? Bon, j'évacue le mauvais cas d'un crash industriel. Ça peut évoluer à la baisse parce que il y a une maturité du métier, une proximité du métier avec une activité de la planète. Et donc, on peut, en accord avec l'entrepreneur, je dirais, rapprocher un satellite de la planète. Et ça, c'est une évolution, je dirais, quasi naturelle. Et puis, il peut y avoir aussi des regroupements d'un certain nombre de satellites. Bon, mais ça n'empêche que ta question reste. Moi, je pense qu'avec... là, on a une quinzaine de marques, une vingtaine de satellites, une quinzaine de marques. Franchement, c'est un portefeuille de marques et vous avez dans d'autres secteurs, je dirais, des beaux exemples qui se gèrent non pas assez facilement, parce que je vous disais que c'était un exercice intéressant, hein. Petite société, gros égo, grosse société, gros égo. Donc il faut y passer du temps. Moi, je pense que la taille qu'on a et le nombre qu'on a aujourd'hui sont tout à fait manageables. En termes de taille, de représentation, en termes de chiffre d'affaires, on a dit ça sera entre 20 et 25%. En tous les cas, c'est best guess actuellement. Et alors, des synergies, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup parce que tu prends la cybersécurité de Digital Security et la sécurité des infrastructures avec Exaprobe, ils travaillent tout le temps ensemble. Tu prends Infini avec des sociétés, donc sur les services Microsoft. Je veux dire, des contrats, des grands contrats d'infogérance ou de transformation où Microsoft est totalement absent, il y en a peu. Donc, il y a de plus en plus de synergies entre les satellites et la planète, mais entre les satellites également entre eux. Et on pourra d'ailleurs, si ça vous intéresse, de plus en plus illustrer dans ce genre de réunion ces cas pratiques. Donc, c'est vraiment pas, je dirais, théorique. Ces gens-là travaillent de plus en plus entre eux et ce qui explique d'ailleurs aussi cette très forte croissance organique. Hein. C'est assez même parfois impressionnant.
Oui, bonjour, Antoine Huchet d'Exane. Alors j'ai deux questions, mais dans l'ordre. Donc la première question, c'est sur les services. Quelles sont les perspectives 2018 sur la marge? Vous avez mentionné une année d'investissement, des ramp-up sur les gros contrats que vous avez signés. Est-ce qu'on pourra commencer à avoir des signes d'amélioration au H2 de cette année, par exemple, ou est-ce que c'est plus un sujet 2019 pour vous, l'amélioration de la marge service?
Pour vous répondre, nous avons dans la salle Laurent Roudil, qui est le patron des services maintenant chez Econocom. Et je pense que c'est de loin la meilleure personne pour vous parler de cette augmentation de la rentabilité visée.
Bonjour à toutes et à tous. Donc Laurent Roudil, j'ai eu l'honneur de reprendre l'ensemble de l'activité des services en France sur la planète à la fin de l'année dernière. Donc pour répondre à votre première question, on ne souhaite pas donner de guidance pour l'année 2018 en termes de résultats d'amélioration de marge sur l'activité des services. Mais pour autant, on a déjà lancé un certain nombre d'actions très opérationnelles pour essayer de contribuer à cette amélioration à terme. Donc on a entre autres, vous en parliez, et la présentation a été faite par Robert, des directions de programme assez structurées et structurantes pour continuer à améliorer nos marges dès la deuxième année sur les grands contrats qu'on a signés. Il y a une partie d'investissement sur la première partie de ces contrats-là. On a aussi lancé un chantier important pour améliorer toute la gestion de nos intercontrats dans tout ce qui est autour de l'IT staffing pour essayer aujourd'hui d'être un peu plus en face de la demande, mais aussi de rationaliser l'ensemble des équipes autour de ces savoir-faire. Il y a un troisième chantier qui n'est pas neutre, qui est de participer de plus en plus à la bundleisation des positionnements sur les offres que l'on a. Il y a eu une présentation de différentes références, en particulier dans le domaine des assurances, qui a été faite. Quand on est au cœur de ces projets-là, les services de la planète améliorent leur rentabilité et participent pleinement à toute la logique de la galaxie. Et puis d'autres sujets autour de l'excellence opérationnelle, du delivery. On a lancé un programme important, on est d'ailleurs accompagné par une société sur ces sujets-là, et vous savez comme moi que quand un client est satisfait, en général, il propose de payer le prix qui correspond à la qualité de service associée. Donc c'est des chantiers qui ont été lancés depuis plus de 3 mois maintenant, et sur lesquels nous comptons pour améliorer la rentabilité à terme.
Merci. Non, ma deuxième question, c'était sur la marge dans l'activité TMF. Au H1, on avait un bénéfice d'à peu près 100 bips, je crois, de mémoire de changement d'hypothèse sur les valeurs résiduelles. Est-ce que vous pourriez quantifier l'impact au H2, s'il vous plaît?
Alors, c'est assez simple, puisqu'il n'y a pas d'impact. Comme on vous l'avait dit, c'était un événement H1. Et du coup, sur l'ensemble de l'année, c'est 30 bips sur la rentabilité de la location. Donc pour ceux qui sont peut-être moins au fait, on a fait évoluer la valorisation de nos valeurs résiduelles sur nos contrats TRO On avait une approche très prudente jusqu'à présent sur ces contrats. Et puis, l'expérience aidant, maîtrisant mieux, comprenant mieux, connaissant mieux l'usage que font de nos clients de ce type de contrat, on a décidé d'aligner notre politique de valeur résiduelle sur ce qu'on fait dans l'ensemble du groupe sur ces contrats. Et ça a eu un impact, effectivement, uniquement sur le H1, pas d'impact sur le H2 et sur l'ensemble de l'année d'à peu près 30 points de base.
Oui, juste sur la régularité de la croissance organique, je comprends bien que lorsque vous externalisez le risque chez une banque dans TMF, vous reconnaissez tout au moment de la livraison. Par contre, quand vous internalisez sur votre filiale banque, entre guillemets, est-ce que ça ne lisse pas plus la croissance organique ?
Alors, c'est contre-intuitif, mais non. Non, en fait, en IFRS, c'est la même comptabilisation. On prend la chaîne de loyer actualisée et la marge au moment de la livraison de la solution chez le client. Donc c'est le même schéma comptable.
D'accord. Et une deuxième question sur les investissements TMF, 56 millions d'euros, je crois. C'est quoi ? C'est lié au modèle naturel du business ou c'est de l'investissement ponctuel ? J'ai pas bien compris à quoi ça.
Ce sont en fait l'investissement dans notre société de refinancement interne, donc EDFL, qui porte sur son bilan un certain nombre de contrats. Donc ce sont les contrats que nous avons accepté de porter sur notre bilan sur l'exercice 2017. On a annoncé d'ailleurs en novembre dernier qu'on allait continuer à investir entre 50 et 60 millions d'euros en moyenne par an sur la durée du plan pour permettre à cette société de refinancement interne de continuer à contribuer à la dynamique de croissance du groupe.
C'est pas de la dette en fait.
Ah si, c'est quand même de la dette, si. Oui. Non, il y a un autre, vous faites référence à un autre point qui sont les contrats refinancés auprès de nos partenaires, mais avec un recours sur Econocom. Donc en fait, ces contrats-là, on ne sera pas amené à les repayer à nos partenaires refinanceurs, sauf dans le cas d'un défaut de paiement de nos clients. Donc c'est ça dont je parlais quand je disais que c'est une dette de nature un petit peu différente de la dette bancaire.
Ok, merci beaucoup.
Oui, bonjour, Stéphane Genoux de Groove Petercam. Dans une des slides, vous montrez l'augmentation de la marge opérationnelle pour les services, à peu près de, je pense, de 5,6 vers 8% en 2022, ce qui est plus ou moins en ligne avec la hausse de la marge opérationnelle qu'on voit pour tout le groupe, où par contre, on a l'activité de la distribution qui met un peu un cap sur la marge. On devrait pas plutôt avoir une dynamique plus forte au niveau de la marge pour les
activités. Tu parles des satellites, Stéphane, ouais. Et non pas des services.
Oui, satellites.
Alors d'abord, je crois que Bruno a dit qu'on s'interdisait pas de faire mieux. Et ce qu'il faut savoir maintenant, c'est pas forcément très pertinent de parler, en tout cas ça vous donne pas des éléments très faciles à analyser quand on parle de la rentabilité des satellites. Pourquoi ? Parce que ce modèle-là, il fonctionne et on l'applique non seulement à nos métiers de service, mais aussi à nos autres métiers. Et dans le chiffre d'affaires des satellites aujourd'hui, il y a à peu près 30% du chiffre d'affaires qui sont liés à des activités plutôt de distribution. Il y a à peu près, je dirais, la moitié du chiffre d'affaires de nos activités de services d'intégration qui sont plus proches de la distribution. Et puis, on a des satellites maintenant dans le monde de la distribution. Je pense à EnergyNet, par exemple. Je pense à Cabrine. Bis, c'est pas un satellite. Tu en as la paternité quand même, mais c'est pas un satellite. Ça donne finalement un niveau de rentabilité qui est plus proche du mix de l'ensemble du groupe que de la pure activité service. Et c'est vrai qu'on a des niveaux de marge qui sont très différentes. Je dirais que le plus faible, qui est de l'ordre de 2%, c'est un satellite qu'on a acheté récemment et qui a encore des belles marges de progression. On va essayer de faire fructifier, de faire jouer les synergies. Et puis les plus élevés, qui sont dans des domaines des services beaucoup plus pointus, qui sont au-delà de 10, voire de 20% de résultats opérationnels courants. Donc il y a vraiment une fourchette assez large de rentabilité et des métiers assez différents au sein des satellites même.
Bonjour, Pierre Godal, Paris CF. Vous nous avez expliqué à juste titre qu'il faut écouter les demandes des clients, consommer davantage de l'usage. Il y a une demande également forte des clients, entreprises notamment, c'est consommer de façon responsable et durable. Donc c'est tout le travail sur la prolongation du cycle de vie du produit, le réemploi, le recyclage éventuellement. Donc qu'en pensez-vous et comment éventuellement répondez-vous à cette demande ?
Oui, alors je crois que c'est un point important et que j'ai omis, et donc je vous remercie de cette question sur le deuxième exemple du discounter non alimentaire, puisqu'une partie de notre contrat et de ce qui nous a fait gagner le contrat, c'est justement la prise en charge des anciens matériels, leur, je dirais, reconditionnement et revente, et le partage des profits de cette seconde vie des matériels avec notre client. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a bien en tête, et que l'organisation, alors soit en direct, soit via des partenariats, des filières de réutilisation de ces matériels qui ont de plus en plus de valeur d'usage dans la durée, fera partie de notre offre. C'est un point tout à fait important que j'ai omis de mentionner tout à l'heure.
Oui, bonjour, Nicolas David, Odo Securities. Dans le communiqué de presse, j'ai deux questions. La première, c'est, dans le communiqué de presse, vous évoquiez l'impact des IFRS 15, avec un impact relatif de l'ordre de 60 points de base de mémoire. Est-ce que vous pourriez nous redonner l'activité qui a été le plus impactée entre les trois à ce niveau-là? C'est ma première question.
Volontiers. Donc, on a annoncé qu'il y avait un peu plus de 300 millions d'euros d'impact chiffre d'affaires. C'est les activités de distribution qui sont impactées, qui représentent les deux tiers de ce chiffre-là. Et puis l'activité, comme on le disait, de services d'intégration qui intègre une dimension de distribution qui est également impactée.
Et du coup, sur la partie service, on aura probablement peut-être une moins de volatilité à l'avenir que ce qu'on a pu avoir sur 2017.
Non, alors on n'anticipe pas d'impact significatif sur les autres activités.
D'accord. Mais du coup, sur la partie service, on peut. Une question qui découle de cela, c'est est-ce qu'on peut avoir quelques éléments de la vision de croissance qu'on peut voir sur les services en fonction du pipe que vous avez de projet, et sachant qu'il y a peut-être moins d'intégration, de volatilité sur ces contrats, ce qui permet peut-être de s'engager un peu plus dans le discours en termes de guidance.
Donc effectivement, comme on vous a dit, on a signé un certain nombre de grands contrats en 2017 qui vont avoir un impact significatif sur les 5-6 années à venir. C'est des contrats qui sont souvent dans une logique où on a plusieurs activités qui ont été intégrées sur les présentations d'offres que l'on a fait à nos clients et qu'ils ont retenues, et pour lesquels aujourd'hui on a une amélioration de la rentabilité qu'on a partagée tout à l'heure, qui est attendue dès la deuxième ou au plus tard pour certains contrats troisième année, avec une accélération forte de l'amélioration des marges à terme. Pour compléter ma présentation et ma première réponse de tout à l'heure, nous on croit énormément, pour plusieurs raisons, à un rebond de l'ensemble de l'activité service planète en termes de rentabilité, pour trois raisons fondamentales. On parlait de l'excellence opérationnelle dans laquelle on va s'inscrire en s'approchant de plus en plus du B2C. Mais on a aussi une culture d'engagement qui est extrêmement importante, que l'on a développée d'ailleurs depuis plusieurs années sur ces projets globaux avec des grands contrats, mais aussi auprès du mid-market, qui est un marché extrêmement structurant et rentable pour nous sur l'activité des services. Et puis, on a cette capacité aujourd'hui à travailler de manière convergente avec l'ensemble de la galaxie. Et je vous l'ai dit, on est sur un schéma de rentabilité qui améliore les marges des services de la planète à partir du moment où on arrive à travailler dans la galaxie et avec la galaxie.
Et si, une troisième petite question, si je peux me permettre. Vu qu'elles sont les unes après les autres. Et c'est sur la marge, du coup, parce qu'on a un effet relatif des IFRS 15 que vous allez appliquer à partir de 2018. Et on n'a pas vu, par contre, de mise à jour de l'objectif de marge à moyen terme. Comment il faut interpréter cela?
Alors pour le moment, effectivement, on ne l'a pas intégré. Et c'est pour ça qu'on parle beaucoup de ces 300 millions d'euros, le doublement en valeur absolue de l'objectif de résultat opérationnel courant. Je pense qu'on ne veut pas trop jouer avec ces effets de normes. Et ce qu'il faut retenir, c'est ces 300 millions d'euros et on ne revient pas dessus.
D'accord, c'est très clair. Merci.
Semble que la source des questions tarissent. On est probablement en retard et on vous présente toutes vos excuses là-dessus. Non, on est en retard. Bon, soyons. Est-ce qu'il y a des questions? qu'il y a encore des questions? Bon, bah, écoute Robert, on peut peut-être terminer là et inviter vos invités et amis à aller prendre un verre. Et,
absolument, merci d'être venu, merci à vous. Et puis,